Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voilà, une tasse de thé posée sur la table de mon salon. Face à moi, une voyageuse qui revient d'Afrique. Mais avant de parler un petit peu de ce que tu as vécu, de ce que tu as découvert là-bas, dans cette émission Regarde ailleurs, l'idée c'est vraiment donner la parole à des gens qui ont en eux cette envie de mouvement, cette envie d'ailleurs. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que je t'avais rencontré d'ailleurs il y a quelques temps. Hein, tu avais pris contact parce que tu avais vu des photos sur, je crois, les réseaux sociaux. Et tu m'avais parlé de ton envie, de ton goût du voyage, de l'ailleurs. Et donc on a un peu suivi l'un et l'autre ce qu'on faisait via ces réseaux-là. Et j'ai vu que tu t'es donné les moyens de réaliser un rêve qui était celui de partir. Et tu as choisi le Sénégal. Donc avant de parler de ce voyage-là, on va venir un petit peu sur toi, Aurélie, sur ce que tu es et ce qui fait qu'un jour où tu as eu envie de quitter ta région d'origine, pour aller ailleurs. Voilà, comment tout ça s'est construit. Reviens un petit peu quelques temps, quelques années en arrière sur ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui et ce qui a fait de toi une voyageuse.
Oui, alors Alexandre, c'est une très bonne question sur qui je suis. C'est difficile de répondre ça rapidement, mais c'est vrai que bon, le voyage, j'y suis venue, je pense, pendant mes études, en fait. Avant, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de voyager en dehors de la France. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier, j'étudiais les langues étrangères. Donc, j'ai fait un Erasmus, en fait, durant mes études, en Espagne. Et ça a été un peu la première découverte. Donc, le fait de vivre seul, partir comme ça, s'indépendantiser. Et par la suite, par mes études, je me suis aussi installée à l'étranger, justement. J'ai eu ce goût-là, en fait, de la découverte, d'être plongée dans une autre culture, plongée dans une autre langue. Donc, j'avais vécu pas mal de temps en Allemagne, en fait, après mes études. Et j'ai toujours eu cette envie de découvrir plus, en fait. Et je pense que ça s'est développé, cette envie, au fur et à mesure, en faisant des vacances un petit peu à droite, à gauche. Mais il y a eu cette envie de plus, en fait. Donc, je suis partie aussi en Asie. Je suis partie à l'île Maurice, donc même en Égypte, je suis sortie en fait en dehors de l'Europe, et ça m'a vraiment donné le goût de découvrir plus en fait.
Juste, je veux qu'on revienne sur Erasmus. Est-ce que tu peux me parler de ça pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, dans le cursus universitaire ou scolaire, on a la possibilité d'aller faire une partie de son cursus à l'international.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un programme donc européen. Pour les étudiants, donc, qui te permet de passer un semestre ou deux semestres à l'étranger, en fait, dans une université à l'étranger. Je pense que c'est même en dehors de l'Europe à l'heure actuelle, mais voilà, donc principalement en Europe. Et c'est vraiment une super expérience, en fait, en tant qu'étudiant, de pouvoir vivre 6 mois ou 1 an à l'étranger.
Tu étudiais quoi à ce moment-là ?
Langues étrangères. Donc j'étais dans la faculté de traduction et d'interprétation de Grenade en Espagne, en Andalousie. Donc c'était vraiment une super, super expérience. En plus, j'avais aussi l'arabe parmi mes langues. Donc comme l'Andalousie a une histoire très particulière avec l'Empire musulman, etc., comme il y a encore beaucoup de traces de l'occupation arabe, c'était vraiment une expérience super, très particulière.
Quand on se lance dans des études de langue étrangère, c'est qu'il y a cette ouverture qu'on a sur le monde, cette envie de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, comment ça t'est venu, pourquoi aller vers ce domaine-là ? Qu'est-ce qui fait qu'Aurélie avait déjà en elle, peut-être jeune adolescente, cette envie de s'ouvrir sur l'ailleurs, sa fenêtre vers d'autres pays, d'autres cultures ?
Alors, je dois dire que quand j'ai choisi mes études, c'était vraiment pas évident. Justement parce que j'ai énormément, énormément d'intérêts, énormément de choses qui m'intéressent. Des choses qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs. Je me souviens, le dernier choix que je m'étais fait avant de justement prendre ces études-là, ce chemin-là, c'était vraiment soit les langues étrangères, soit médecine. Donc des choses qui sont quand même diamétralement opposées, qui n'ont rien à voir à première vue. J'étais intéressée par la photo, j'étais intéressée par l'architecture. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça, donc c'était pas évident de faire un choix. Mais au final, je me suis laissée porter par cet intérêt que j'avais justement pour l'ailleurs, pour la communication en fait, être en contact avec des gens de cultures différentes, d'apprendre justement sur les autres. Voilà, je me suis laissée entraîner par ce domaine-là, effectivement.
Et donc, tu finis tes études, et après ?
Et après, donc, j'ai terminé par mon master en langues étrangères et commerce international. Et justement, donc, j'avais étudié en France. Et je me suis dit, voilà, j'ai pas forcément envie de rester en France, justement, par rapport à mon côté très international. Et j'avais fait mon stage de fin d'études en Allemagne, qui m'avait beaucoup plu. L'allemand, il faut savoir que c'était quand même ma première langue étrangère à l'école, étant donné que je suis née en Alsace et que c'est notre première langue étrangère avant l'anglais. Et du coup, ça m'avait bien plu, l'Allemagne, j'avais renoué avec cette langue-là aussi. Donc, je me suis installée en Allemagne. Voilà. Et j'ai travaillé dans pas mal de domaines, donc dans le commerce international. J'avais travaillé pour une société d'importation de roses du commerce équitable. J'avais également travaillé dans de la cosmétique naturelle, enfin des domaines qui me tiennent quand même pas mal à cœur, quoi.
Et avec cette envie toujours d'aller vivre à l'étranger ou pas forcément, ou qu'est-ce qui poussait cette envie d'ailleurs, est-ce que tu arrives à identifier ça ?
Alors je pense que c'est venu un peu plus tard, mon envie d'ailleurs de plus loin, j'allais dire. Et surtout, je pense que ça a été combiné aussi avec le fait, donc j'ai travaillé quand même quelques années dans ce domaine-là, du commerce international, et petit à petit, j'ai de moins en moins vu le sens, en fait, de ce que je faisais. Donc je me reconnaissais plus, en fait, dans ça, et j'avais vraiment, vraiment besoin de sens dans ce que je faisais, et cette envie d'ailleurs en même temps. Donc petit à petit, c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que... Finalement, ma voie, c'est pas de partir à l'étranger et de faire quelque chose qui, pour moi, a du sens là-bas, de réaliser des projets, de choses qui me tiennent à cœur, plutôt que d'être, voilà, dans un bureau, devant un ordinateur, 8 heures par jour, à me demander est-ce que c'est vraiment ma place ? Est-ce que pendant ces 8 heures-là, je réalise vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait ? Voilà.
Cette notion du sens, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les rencontres ou dans les interviews que je peux faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment urgence à remettre ce sens et cette cohérence et être résilient et être acteur de notre propre réalité et réaliser ses rêves. Quelqu'un me disait, je sais plus qui, ou j'ai dû lire ça sur une phrase ou sur une citation, si on fait de son rêve sa réalité ou si on fait de son rêve son métier, on n'aura plus l'impression de travailler un seul jour de sa vie. Donc comment est-ce qu'on fait pour remettre du sens et comment est-ce qu'on trouve du sens à sa vie ? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser finalement à tout âge de sa vie.
C'est une très bonne question. Moi-même, je me la suis posée très très souvent. Je pense que c'est un long cheminement aussi. Ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Après, ça dépend des personnes. Il y en a peut-être qui ont justement quelque chose très très précis en tête, ce qui n'était pas mon cas. Je savais pas forcément comment débuter. Après, j'ai eu beaucoup beaucoup de remises en question au niveau du travail. Donc ça, quand même, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été vraiment très long, comme je disais. Après, il y a peut-être des circonstances qui ont fait que, au niveau de ce qu'on a vécu là, les dernières années justement en Europe, un peu de sentiment d'urgence, où je me suis dit, voilà, maintenant il faut agir. Je pense que c'est souvent ça. Si on n'arrive pas à agir, il faut que quelque chose se passe en fait. Soit c'est le sentiment d'urgence, soit c'est que ça ne va plus tout simplement dans ce qu'on vit au quotidien. On remarque qu'on est complètement en décalage et qu'il faut un changement en fait. On n'a plus le choix. Sinon, ça ne va pas. Donc voilà.
Ouais. Et c'est pas évident, ça, quand on se rend compte qu'on trouve plus sa place ou qu'on n'a pas le sens qu'on recherche dans sa vie. On est souvent désarmé, on ne sait pas par quoi commencer.
Oui, tout à fait. C'est une phase par laquelle je suis passée aussi. Ça a duré quand même pas mal de temps chez moi. Je pense une année à 2 ans où j'étais vraiment en période de doute, en situation de doute. Donc j'étais encore en poste en Allemagne à l'époque. Avec de moins en moins d'intérêt, de plus en plus de frustration, effectivement. Et donc, j'avais profité un petit peu de mes congés à l'époque pour faire des voyages, voilà, voir qu'est-ce qui se passait à l'étranger, etc. Jusqu'au jour où j'ai vraiment sauté le pas, où ça n'allait plus du tout, en fait, au niveau du travail. Il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées à ça aussi, qui m'ont poussé justement vers la sortie, j'allais dire, ce qui était bien pour moi. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai vraiment entrepris des voyages. Là, j'ai eu cette liberté-là de pouvoir voyager, effectivement, rencontrer des gens, voir quelle voie ça allait prendre, plus ou moins pour moi, petit à petit. C'est pas encore défini, mais voilà, c'était le fait de sortir de cette zone de confort, entre guillemets. Ça a été difficile, mais une fois qu'on a fait le premier pas, je pense que c'est le premier pas vers la liberté, en fait.
Donc là, tu rentres d'un an, un an et demi au Sénégal, donc on peut vraiment parler d'un voyage, hein, parce que t'es parti sans forcément avoir une date de retour. Mais avant ça, tes premiers voyages à l'international, c'était plutôt dans le cadre de tes vacances, de tes congés, si je comprends bien.
Oui, tout à fait, ouais, j'en profitais donc pour partir. Les premiers voyages que j'ai fait un peu plus loin en dehors de l'Europe, c'est donc la Thaïlande, où j'avais d'ailleurs visité un sanctuaire d'éléphants, moi qui suis très très attachée à la cause animale, qui a une très très belle connexion aux animaux. Donc c'était vraiment une superbe expérience déjà. J'étais à l'île Maurice, je suis partie, comme je disais, en Afrique, donc en Égypte aussi, parce que je fais beaucoup de plongée. J'aime beaucoup le monde sous-marin. Pareil, j'ai une très très belle connexion à tout ce qui s'y passe. Enfin, ça me donne un sentiment de liberté très très fort. Je pense que tu l'auras remarqué, la liberté c'est une de mes valeurs fondamentales aussi. Donc voilà, petit à petit ça s'est fait comme ça. Et une fois que je suis sortie de cette relation de travail, comme je disais, j'ai pu partir un peu plus longtemps. Donc je suis partie à Cuba. J'avais aussi assisté justement à des séminaires de protection animale aux États-Unis. Donc j'ai pu combiner ça avec Cuba, comme géographiquement ce n'est pas très loin. Et pareil, donc sans forcément avoir une date retour, donc c'était un peu la surprise. À Cuba, je devais partir 3 semaines, j'y suis resté 3 mois. Donc c'est voilà les choses qui se passent sur place, qui guident un petit peu le chemin. Mais je pense que les choses sont très bien faites en fait. Dès qu'on ne force pas les choses, il y a beaucoup de synchronicité, donc beaucoup de hasards qui ne sont pas des hasards. Moi, je ne crois pas au hasard, mais il y a beaucoup de choses qui se passent justement pour y voir petit à petit un petit peu plus clair, qui éclaire notre voie en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors, t'as dit des choses qui m'intéressent beaucoup. Ces synchronicités, on en parlera, je t'interpellerai, je t'interrogerai là-dessus. Tu parles aussi de cette envie de liberté. Donc, on va définir le terme liberté. Qu'est-ce que c'est que pour toi, hein, être libre ?
Être libre, tu as des bonnes questions là, Alexandre. Être libre, je pense que c'est compliqué à définir, mais en tout cas, pour moi, la liberté, ça passe par l'épanouissement, ça passe par un sentiment d'accomplissement, de pouvoir faire ce dont on a envie de faire quand on a envie de le faire, c'est-à-dire ne pas avoir de limites, de barrières, et c'est surtout chercher ce qui nous rend heureux en fait, c'est ça.
J'entends aussi dans ce que tu dis que dans tes premiers voyages, il y avait quand même déjà cette notion de sens. Hein. Tu parles de la cause animale, du sanctuaire d'éléphants en Thaïlande. À Cuba, c'était aussi sur un projet lié avec la cause animale. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ou quel conseil tu as envie de donner à ceux qui ont envie de partir et mettre du sens? Parce qu'effectivement, il y a des chantiers de bénévolat et des organismes qui sont là pour permettre à des jeunes qui ont envie de partir, mais partir utile.
Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'organismes ou d'organisations qui proposent justement, pour ceux qui ont envie de partir un peu dans un cadre, j'allais dire, qui proposent ce genre de mission de volontariat à l'étranger dans différents secteurs, hein, selon ce qui t'intéresse dans l'humanitaire, dans la protection animale, dans l'agriculture, dans les chantiers, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Après, il y a aussi le service civique. Après, il faut vraiment regarder quel âge on a, etc., quel est le contexte, mais il y a effectivement beaucoup de programmes qui te permettent de partir dans un contexte encadré, j'allais dire, surtout pour les jeunes ou les moins jeunes qui se cherchent, qui veulent avoir une expérience différente, pas forcément complètement changer de domaine, mais voir un petit peu autre chose et voir si ça peut effectivement déboucher sur de nouvelles opportunités, tout à fait.
On peut en citer d'autres, on peut aussi citer le VI, donc le volontariat international, le VSI, le volontariat de solidarité internationale, sur des missions qui sont d'un, deux, trois, voire jusqu'à quatre ans. Service civique, je pensais sur des durées un peu plus courtes, du volontariat c'est encore plus court, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un panel d'associations, d'organismes qui sont là pour accompagner les jeunes ou moins jeunes, parce que la tranche d'âge effectivement va peut-être aussi plus ou moins aiguiller l'association, la structure avec laquelle tu vas pouvoir partir. Donc toi tu as goûté à ça, si j'ai bien compris?
Alors moi, en fait, je suis pas partie dans un cadre encadré, si je peux dire ça comme ça.
Vous voulez être libre.
Oui, et en même temps, j'ai mis beaucoup de temps à sauter ce pas-là. Donc c'est vrai que tu parlais du VI, le VIE, le VIA. J'avais envie de prendre cette opportunité pour partir à l'étranger, et je me suis rendu compte au moment où je voulais faire ça que j'avais déjà dépassé l'âge d'un an. Donc justement, d'où les limites d'âge qui peuvent être un peu un frein. Et j'avais essayé de regarder d'autres programmes, effectivement, où j'avais aussi déjà passé l'âge. Je me souviens, pour l'anecdote, que j'avais fait une demande de permis work and travel, donc permis vacances, travail, je pense que ça s'appelle comme ça en français, qui est proposé dans plusieurs pays, et dont la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, justement, la limite d'âge, c'était 30 ans. Je pense la veille des 31 ans, il faut faire la demande. Et justement, j'avais fait la demande la veille de mes 31 ans. Et ça n'est pas passé. Je crois pour quelques heures à cause du décalage horaire. Enfin, c'était vraiment le destin. Ça ne devait pas se faire. Et ils m'ont refusé ça pour quelques heures. Et j'étais vraiment très motivée à partir. Donc, ça m'avait un peu déçue. Et en même temps, je me suis dit, voilà, les choses arrivent. Enfin, se passent de la manière dont elles doivent se passer. Il y a toujours un sens derrière tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de manières de partir. Et là, en Afrique, en l'occurrence, je suis partie, mais pas du tout dans un cadre, comme je te disais. Pas du tout en mission ou... avec une ONG précise, pas du tout. Non, c'était plus une initiative personnelle.
Alors l'Afrique, on va y aller, on va y arriver. Donc le Sénégal, hein, c'est le pays qui t'a accueilli pendant plus d'une année. Ouais. Comment tu as préparé ce voyage et pourquoi le Sénégal? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu dans mon salon, il y a 2 ans de ça, tu avais cette envie de partir, mais tu me parlais peut-être d'Afrique, mais tu n'avais pas encore de pays qui était clairement identifié.
Et oui, effectivement, c'était assez compliqué de choisir où. Je savais que j'avais envie de partir. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui se sont précipitées. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de préparation, finalement. Ça s'est fait assez vite. Je dois dire que entre le moment où j'ai décidé de partir au Sénégal et ma réservation de billets d'avion, je pense qu'il s'est passé 3 jours. Enfin, j'ai voyagé entre 3-4 jours. Ça a été vraiment très rapide, après, dans ma tête. C'est vrai qu'à l'époque, j'hésitais beaucoup avec l'Amérique latine aussi. C'était un peu les deux, Amérique latine, donc tout ce qui était Costa Rica, Colombie, qui m'appelait pas mal, qui m'intéressait beaucoup, notamment pour la protection animale. On sait qu'au Costa Rica, il y a une richesse au niveau de la faune et de la flore qui est quand même assez incroyable. Et l'Afrique que je connaissais déjà, le Sénégal, je le connaissais déjà parce que j'y avais été 2 ans avant, je pense. J'avais fait un voyage là-bas, donc j'avais aussi un peu des personnes sur place que je connaissais, un petit peu des points d'attache, pour ainsi dire. Et je pense que quand j'ai dû prendre ma décision comme ça, je me suis dit « Allez, maintenant j'y vais », assez rapidement. Je pense que c'est ça aussi ce qui a joué dans la balance, le fait que c'était quelque chose qui était déjà connu et que j'avais toute une partie du Sénégal que je ne connaissais pas et que je voulais absolument connaître. Donc je pense que c'est ça ce qui a précipité ma décision, ce fait d'avoir un peu une mini-sécurité, j'allais dire, de ne pas partir complètement à l'inconnu, ce que j'ai déjà fait aussi, hein, mais en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais peut-être besoin de cette mini-sécurité que les gens allaient m'apporter, que je connaissais sur place. Ouais. Ya Fatoumata, Ya Fatoumata, Bagamini Saïmoro, Ya Fatoumata, Boumage la Khami Gondel. Ya Fatoumata Bu magge la xamni du deñ Ya Fatoumata Bu magge la xamni ma way Ya Fatoumata Dom de joy na wetoy Mam xare he he Amul batam ngir fo wi Bëggëna doxon tujjé Amul batam ngir fo wiyé Bëggëna fo wéy Maxé na ñana na koy
J'aime bien cette notion. C'est vrai que souvent, il y a des peurs qui vont nous empêcher de franchir le cap. Hein. Voyager, c'est facile, en tout cas dans la tête et dans l'esprit, et jusqu'à ce qu'on se rende compte que il y a des peurs qui vont des fois nous ralentir dans nos projets. C'est normal, c'est le cas de beaucoup de monde. Pour passer du rêve à la réalité, faut des fois un petit peu sortir de cette zone de confort et accepter aussi des fois de se planter un peu, mais c'est aussi là où il y a une forme de magie qui opère. Tu parlais des synchronicités qui vont te guider ou te montrer que finalement tout est juste et tout est à sa place. Donc toi, tu es retourné au Sénégal. Est-ce que tu savais pourquoi, ce que tu allais y faire? Est-ce que tu avais quand même plus ou moins des buts ou c'était vraiment sur un coup de tête?
Alors, je dirais un petit peu des deux, en fait. Sur un coup de tête, oui, mais je savais que si j'allais y rester pour un certain temps, c'était pour y accomplir quelque chose aussi. Pour vraiment lier l'utile à l'agréable, j'allais dire. Donc, j'y suis partie, mais je pense que je n'avais pas encore de projet concret en tête à cette époque-là. Sachant qu'il y a énormément de choses à faire au Sénégal. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des besoins, donc ça ne manque pas. Mais effectivement, je suis partie, je n'avais pas d'itinéraire, c'était un peu la liberté totale. Et du coup, assez rapidement, quand je suis partie là-bas, à force de rencontrer des gens sur place, etc., plus les gens que je connaissais déjà, il y a quand même petit à petit certaines choses qui se sont dessinées. Donc ça m'a permis de voyager au niveau du Sénégal, dans des régions que je ne connaissais pas encore, notamment l'est du Sénégal. Et je m'étais prise en fait comme objectif, j'allais dire, dans un premier temps, d'aller voir certaines écoles, d'aller rencontrer des gens dans certains postes de santé pour voir un petit peu quelle est la situation en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté. Mais ça, c'était vraiment personnel en fait, d'évaluer ça. Et par la suite, éventuellement, chercher justement des gens qui allaient aider, donc des investisseurs, des donateurs, plus au niveau du Sénégal que de l'Europe d'ailleurs, parce qu'on a plutôt tendance à penser qu'on va chercher l'aide au niveau du Nord. C'est toujours cette relation Nord-Sud en fait qu'on a conservée. Et je me suis dit pourquoi pas essayer sur place, localement, de faciliter cette entraide-là, des gens qui ont de l'argent, qui aimeraient donner, qui aimeraient aider leurs compatriotes, mais qui ne savent pas comment. Et donc voilà, c'était un peu ça, parcourir le Sénégal, voir les postes de santé, les écoles, dans un premier temps.
Ça doit pas être évident d'être, je sais pas comment on dit, la toubab, je crois que c'est ça, c'est le mot qu'on utilise, la toubab, l'étrangère, la blanche, aller toquer à la porte des entreprises sénégalaises pour demander de l'aide pour leur propre pays, non? Ça doit être perçu d'une manière assez étrange.
Mais justement, en fait, au Sénégal, c'est quand même un pays où tout fonctionne énormément par réseau, par connaissance. Donc il faut savoir que justement, on rentre très facilement en contact avec les gens. Les gens sont à première vue très ouverts et c'est pas du tout compliqué de rentrer en contact avec quelqu'un comme ce serait le cas en France, en Allemagne. Bon, ça dépend. Après, les gens sont peut-être un peu plus réservés. Mais ça fonctionne énormément par le réseautage de gens que tu connais, etc. Et il faut savoir que moi, justement, comme tu disais si bien, la toubab, je me suis toujours fait accompagner par quelqu'un sur place, par un local. Un ami, en l'occurrence, justement, que je connaissais déjà de mon précédent voyage, qui est d'ailleurs le coordinateur aussi d'une ONG belge sur place. Mais je pense que c'est très très important de se faire accompagner par quelqu'un sur place, par un local. Ça, c'est primordial. Parce que effectivement, si tu arrives en tant que toubab, en tant que blanche, qu'occidentale, tes intentions peuvent parfois être un peu mal perçues, peut-être. Ça dépend de la démarche que tu as. Mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est vraiment s'intégrer un maximum, avoir cette volonté de s'intégrer, de s'intéresser aux gens. Et je pense que cette intégration-là, elle passe aussi justement par la langue. Donc moi, la première chose que j'ai faite, c'était apprendre la langue comme ça sur le tas, le plus vite possible. Les langues, parce qu'il n'y en a pas qu'une au Sénégal. Il y a le Wolof qui est la langue principale, mais après, il y a quand même les langues des différentes ethnies. Donc c'est toujours bien de connaître aussi quelques mots dans les autres langues. Et les gens sont très heureux. Ils t'ouvrent leur cœur beaucoup plus facilement. S'ils voient qu'il y a cette intégration-là, cette humilité-là par rapport à leur culture, donc c'est quelque chose de très important, je pense.
C'est ce qui va souvent différencier le voyageur de celui qui part en vacances, qui aura une durée de temps limitée, 2 ou 3 semaines avant de rentrer en France, et puis qui sera plutôt là pour se reposer, ou en tout cas apprécier les différentes facettes culturelles d'un pays, mais le voyageur, lui, a vraiment cette volonté de s'immerger dans la culture et pourra prendre ce temps d'immersion en apprenant la langue, en apprenant les codes culturels et donc du coup en transformant complètement le voyage qu'on est en train de vivre. Mais tu restes quand même la Toubab. Donc comment tu ressentais le fait d'être une Toubab par rapport à l'histoire de la France-Afrique?
C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est très rapidement catalogué quand on est blanc, en plus quand on est français. Forcément, avec l'histoire, oui, on est très facilement catalogué. Mais je pense que c'est justement à chacun de faire ses preuves et de montrer que bah, tous les gens ne sont pas pareils, n'ont pas les mêmes mentalités. Même si, comme je disais, il y a, je pense encore des Européens qui ont un peu cette mentalité post-coloniale et voilà, qui malheureusement nous donnent pas une bonne image au niveau du pays. Je pense que c'est vraiment à nous de montrer qu'on fait preuve d'humilité, encore une fois, de respect par rapport à la culture locale, et qu'on est là vraiment pour apporter un soutien, pas du tout pour donner des leçons. Mais je reviens sur cette facette de l'intégration. Le fait que les gens voient, quand tu les approches, que tu les approches dans leur langue, que peut-être tu t'adaptes aussi au code culturel, comme tu l'as dit, donc au niveau de l'habillement, d'avoir une certaine pudeur, parce que c'est quand même un pays relativement pudique, donc à grande majorité musulmane, notamment le nord du Sénégal. Le fait de s'adapter, même au niveau du code vestimentaire, tout en fait, l'attitude, etc., il y aura forcément plus de respect de la part de tes interlocuteurs que d'y aller voilà, en mode « je suis l'Européen, je sais mieux, donc je dicte ce que vous devez faire ». Effectivement, mais à première vue, les gens, quand ils te voient dans la rue, s'ils ne te connaissent pas, ils vont forcément te cataloguer selon eux, les jugements qu'ils ont par rapport aux Blancs. Ça, c'est sûr. C'est à toi de casser les codes, après, en les approchant. C'est à toi de casser ces codes-là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu disais avant, tu parlais de cette notion de synchronicité qu'on peut avoir dans le voyage. Est-ce que tu arrives à m'expliquer? Parce que je l'observe aussi, hein, je fais aussi partie de cette famille de voyageurs depuis maintenant presque 20 ans. Moi, mon premier voyage était en Australie, en Afrique aussi, hein, au Togo. Mon premier voyage était au Togo à 18 ans, puis l'Australie, puis le Japon, puis un voyage on a appelé un autre, et c'est jamais arrêté. Et j'ai aussi aimé partir sans avoir de plan, no plan is the best plan, pas de plan, c'est le meilleur des plans, parce que du coup tout est possible. Et on observe de temps en temps une forme de magie qu'on comprend pas vraiment, ou en tout cas que j'ai pas vraiment compris, hein, où on peut avoir une envie, une idée, et on va rencontrer la personne qui va nous amener vers ce vers quoi on voulait aller. Comment tu expliques ces synchronicités, cette magie de la vie?
Alors moi je trouve ça vraiment, comme tu l'as dit, très magique, les synchronicités, surtout quand on est ouvert à ça. C'est-à-dire quand on veut bien les voir, déjà, et qu'on y croit, quelque part. Parce que je pense que ça arrive à tout le monde, mais que beaucoup de personnes ne veulent pas voir ces petits hasards, comme on dirait, de la vie. Mais c'est, encore une fois, moi, je ne crois pas au hasard. Tout a un but, en fait, de t'emmener, tous ces petits moments, ces petits signes, te montrent une voie, en fait, qui est la tienne, qui est la bonne. Et je pense que plus on est aligné, c'est-à-dire plus on vit la vie qu'on doit mener, plus on est épanoui, on trouve le sens de ce qu'on fait, dans ce qu'on fait justement, plus il y a de synchronicités qui te montrent la voie, en fait, qui viennent sur ton chemin et qui te montrent qu'en fait tu es dans la bonne direction. Et c'est assez magique. Enfin, je trouve ça assez marrant entre temps, dès que je vois des petits signes comme ça qui me confirment ce que je pensais ou la décision que je voulais prendre. Ou comme tu dis, ça peut être des rencontres avec des gens qui justement te confirment, ok. Je suis dans la bonne voie, ou tiens, c'est ça ce que je dois faire, ou c'est assez magique, hein, c'est difficile à expliquer les synchronicités tant qu'on les a pas vécues, mais c'est des moments, quand je les vis, je suis reconnaissante, en fait. Ça me fait toujours sourire, en fait.
Ouais. C'est vrai que c'est un concept un peu New Age qui peut faire sourire aussi, hein, quand on en parle, parce que finalement il y a aussi cette notion d'interprétation. Une rencontre, on peut l'interpréter de différentes manières, en se disant « waouh, c'est la providence qui me l'envoie », ou alors se dire « bah ok, c'est juste une rencontre comme une autre ». Et moi-même, hein, je me questionne là-dessus, parce que je fais partie de ces gens qui observent des synchronicités complètement dingues. Je pourrais presque en citer quelques-unes, mais c'est pas mon interview, c'est le tien, donc je veux bien que tu me cites des synchronicités qui t'ont marqué.
C'était quand je vivais justement en Allemagne, peu avant que je quitte l'Allemagne. Donc j'ai quand même vécu 8 ans en Allemagne. Et en fait, pour la petite histoire, hein, j'avais la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivée en Allemagne, c'était une amie à moi et on s'est perdu de vue pendant 8 ans. Et juste avant que je fasse mon déménagement, 8 ans après, j'avais retrouvé des papiers justement où j'avais son nom et tout. Et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment dommage, je vais quitter l'endroit sans avoir même pu la voir en fait. J'aurais bien voulu la revoir au moins avant de quitter. Et voilà, ça faisait 8 ans qu'on s'était perdu de vue, on n'avait pas de nouvelles, rien. Et en fait, 4 jours après, je me suis rendu, à l'époque, c'était des voilà, pour la petite histoire, c'est des bains thermaux, donc des thermes. Et c'était des endroits où je n'étais jamais allée en fait. C'était un... Je vais là-bas, j'aurais dû y aller déjà un jour avant, j'ai pas réussi, deux jours avant j'avais aussi un empêchement, donc j'y vais. Je me suis dit, si je n'y vais pas aujourd'hui, je n'y arriverai plus tant avant que je déménage. Au moment où je me retrouve dans les vestiaires, en partant le soir, je croise cette personne justement. Je croise cette personne que je n'avais pas vue depuis 8 ans, et je la vois devant moi et j'ai un choc. Je me dis, mais il y a 4 jours, j'ai émis le souhait de te revoir, j'aimerais vraiment te revoir avant de repartir. Et là, tu es là devant moi, alors que ça fait 8 ans que je n'ai pas de nouvelles de toi, dans un lieu que je n'ai jamais visité, où je n'aurais pas dû être ce jour-là. Pareil, elle m'a dit, on n'aurait pas dû venir ce jour-là, mais on a eu des empêchements les autres jours. En fait, c'est vraiment, ça a convergé pour qu'on se retrouve. C'est-à-dire que ce que j'avais émis comme souhait 4 jours avant, moi, je crois, enfin, je pense que ça a eu une résonance, en fait. Tout simplement parce que c'était juste qu'on se retrouve. Et c'est juste une petite anecdote, il y en aurait certainement beaucoup d'autres, des synchronicités, voilà, mais cette rencontre-là, 8 ans après, et on a de nouveau lié une relation, justement. On est de nouveau revenu en contact et on n'a jamais été aussi proche qu'avant. Enfin, c'était incroyable. On devait se retrouver.
Aurélie, donc là, tu reviens de 1 an et demi de Sénégal. Comme tu reviens du Sénégal, donne-moi 3 adjectifs qualificatifs qui décriraient selon toi le Sénégal. Voilà. Quels sont les mots qui te viennent si je te dis Sénégal ?
Coloré, bruyant, vivant.
Aurélie, merci à toi.
Merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.